Donc le titre de cette soirée, dont en quelque sorte la pierre angulaire est le film que vous allez voir avec André Gorz, c'est autour de la notion de production de soi. Et donc c'est une notion effectivement pleine de promesses lorsqu'on la prend comme ça dans le cadre de la société salariale et de cet horizon qui se dessinerait d'une émancipation de cette société salariale. Et nous avons choisi ce film avec André Gorz parce que, par les propos d'André Gorz que nous avions connus à la revue depuis plusieurs années, pour ceux qui ne connaissent pas André Gorz, bon, s'est donné la mort avec sa femme il y a à peu près 2 ans. Nous lui avions rendu un grand hommage à Paris, il y a à peu près 1 an et demi à la Maison de l'Architecture avec la Cité européenne des Recollets. Et André Gorz est un penseur fondamentale du rapport social au travail et du travail dans sa dimension anthropologique. Lorsque Gorz, pour ceux qui le connaissent mal ou peu, est mort, il y a 2 ans, il a été célébré comme effectivement le directeur successeur de Jean-Paul Sartre à la Revue des Temps Modernes. Toute une époque était fondamentale pour lui, mais on a trop peu insisté sur le Gorz penseur du travail, qui a une importance, à mon sens, égale à celle d'une Hannah Arendt ou d'un Marx, par exemple, avec qui il était en dialogue constant. On a préféré un Gorz, directeur des temps modernes, encore très imprégné de marxisme, et on n'a pas trop analysé, j'espère que ça viendra, sa contribution par rapport à un certain nombre de thèses qui sont radicales et révolutionnaires et qu'il développera dans ce film-là, et qui feront l'objet entre nous d'un temps de réflexion. Donc, la production de soi, c'est une notion très ambivalente, très problématique. Il faut savoir que le film que vous allez voir est un document rarissime, puisque Gorz accordait très peu d'entretiens, et quasiment, on possède très peu de documents filmés de lui. Il y a un film allemand, d'ailleurs, qui a été fait avec lui et Dorine un petit peu avant sa mort. Mais ça, c'est un document. Alors, tant cherché à rendre cet hommage à Gorz, qui est beaucoup plus, pas un hommage, mais une mise en perspective de sa pensée, avec ce titre qu'on avait choisi de Penser le travail au XXIe siècle, on était à la recherche d'un document. Et on a cherché dans toutes les médiathèques en France, et on savait que ce film avait été réalisé par un réalisateur belge, Marianne Antwerker, en 1990, et on n'arrivait pas à la mettre la main dessus. Et on a retrouvé une copie, 3 semaines, je crois, avant d'organiser cette grande manifestation publique sur Gorz, à une médiathèque de Liège, une copie VHS qu'on a numérisée, on a pu après voir avec la boîte de production pour la cession de droit. Et donc c'est un document vraiment, vraiment rare, rare, rare. Et je crois que ce film fait en 90, pour bien situer ceux qui connaissent déjà André Gorz, est fait au moment où André Gorz, en 88, vient de publiera Métamorphose du travail, qui est aux éditions Galilée, où il y développe une sorte d'histoire du travail, avec une mise en perspective des possibilités objectives au niveau économique aujourd'hui de s'émanciper de la sujétion salariale et du rapport au travail exclusivement monopolisé par le rapport salarial. Et donc il faut savoir que les thèses qu'il développe, enfin le film, fait écho à cet ouvrage fondamental de 1988. On peut voir dans ce film-là, il y a un peu Hawking qui a fait une brève histoire du temps, mais c'est absolument extraordinaire dans ces 28 minutes. Gorz esquisse une brève histoire du travail, quoi, de l'Antiquité à nos jours, et en dessinant des horizons qui certainement nous interrogeront dans ce temps de réflexion, de réaction après le film. Alors ce que je vous propose, ce qu'on vous propose, c'est le film est déjà porteur d'un certain nombre d'argumentations. Ce que je vous propose après, c'est qu'on ait un temps de réflexion commun. Je veux pas, c'est pas une soirée, conférence après, etc., etc. Je pense que je reprendrai la parole par rapport à ce que vous aurez entendu, et on aura l'occasion, tous ensemble, d'essayer d'approfondir de cette notion de production de soi et d'essayer de voir de quelle manière, il y a une conciliation possible entre travail et liberté, parce que ça, c'est une question fondamentale, malheureusement, qui est pas trop à l'ordre du jour dans le débat sociopolitique, vous en conviendrez peut-être. Voilà, donc je vous souhaite une bonne projection et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci.
Une voix dans les décombres, ce qui reste quand on a perdu toutes nos illusions. André Gortz, le Viennois, l'ami de Jean-Paul Sartre, l'éternel fiancé de l'utopie, a choisi d'accompagner le siècle finissant en nous rappelant nos origines sociales et économiques.
Le travail est une invention du capitalisme, tel que nous l'entendons. Si vous prenez des sociétés antiques, le travail ne se déroulait pas dans la sphère publique. Ce qu'on appelait le travail, et l'économie, ou economia, ça se passait dans la maison, dans le foyer, dans l'oikos. Particulièrement dans la société grecque, c'est les femmes qui travaillaient, qui étaient donc les sujets de l'économie, et les hommes faisaient de la politique. Le travail que les femmes ne faisaient pas était accompli par les esclaves. Et le travail était mal vu, était mal considéré. On disait qu'une personne qui s'adonne prioritairement à sa profession, comme tous les artisans, n'est pas digne d'être un citoyen de plein droit qui s'occupe des affaires de la cité, puisqu'il n'a en vue qu'un secteur particulier et non pas le bien général. Et si nous passons au Moyen-Âge, il n'y avait pas la notion de travail. Il y avait des besognes, il y avait des peines, les hommes de peine, il y avait le labeur, qui était essentiellement le travail du laboureur. Il y avait l'œuvre, qui était l'activité des artisans qui œuvraient, qui créaient des produits entiers, qui étaient à la fois beaux et utiles. Et le travail était tout ce qui est pénible et désagréable. C'est ce qu'on appelait le travail. Non, avec le capitalisme industriel, tout a été éliminé, sauf cette notion de travail. Mais la chose s'est faite très lentement. Et si vous prenez encore Max Weber, donc un sociologue allemand du début du siècle, il a vécu l'ancien système de vente des textiles produits artisanalement. Il explique que il n'y avait jamais de concurrence entre les artisans qui produisaient ces tissus, et les marchands de gros qui achetaient la production des artisans n'auraient pas eu idée de les mettre en concurrence les uns avec les autres. Il y avait des qualités qui étaient normalisées, et quand un tissu correspondait à la qualité normalisée, il avait son prix. Ce prix était immuable, il n'était pas négociable. Il n'y avait pas question de marchander. Donc le marchand de gros visitait les fabricants de tissus, ne marchandait pas avec eux, mais allait avec eux au bistrot. Ils buvaient du vin, ils mangeaient ensemble, ils faisaient leurs affaires, ils leur passaient une commande, ils leur achetaient la commande ancienne au prix convenu, et ces gens travaillaient en moyenne 6 heures par jour, pas plus. Et en plus, ils avaient presque 200 jours fériés par an. Ils ne travaillaient pas. Pour nous, ça semble être la bonne vie. C'était pas un mode de vie désagréable, c'était un mode de vie détendu, assez convivial, où, donc, comme vous voyez, la rationalité économique, les rapports marchands étaient étroitement limités, enserrés dans des rapports conventionnels, traditionnels, quasiment éthiques. Le marchand avait son éthique, il n'aurait pas eu idée de tromper ou de marchander avec le producteur, et celui-ci avait sa loyauté envers le marchand.
Qu'est-ce qui impose ça, ce système ?
C'était une idée de l'ordre social. La société était encore une société ordonnée, où il y avait en haut et en bas, et puis chacun était à sa place, on ne changeait pas de place, on était ni à sa place et on y restait. Maintenant, comment est-ce que ça a changé? C'est que, à un moment donné, des fils de marchands de gros se sont dit, mais ce que fait mon père, c'est pas rationnel. On pourrait gagner beaucoup plus si moi, marchand de gros, j'allais voir le client final, hein, c'est-à-dire visiter les paysans, les industriels, etc., et voir avec eux ce qu'ils aimeraient avoir comme qualité. Et ensuite, quand j'ai fait ma clientèle au détail, je vais retourner chez le fabricant et je vais les mettre en concurrence les uns avec les autres. Hein, ce qu'ils ont fait. Et dit Max Weber, qu'est-ce qui avait changé? L'esprit du capitalisme était né. C'était une mutation culturelle. C'était une émancipation par rapport à aux normes anciennes de moralité. C'était le darwinisme social qui faisait son apparition, c'est-à-dire les plus aptes qui aient leur prime et les autres qui crèvent. Eh bien, voilà. Une fois que vous avez commencé dans ce sens-là, vous vous dites, d'abord, il n'est pas rationnel que le tissu soit produit par des artisans. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas tous ces artisans dans un grand atelier, au lieu qu'ils travaillent 6 jours par semaine pendant 150 à 200 jours, 6 heures par jour pendant 150 à 200 jours par an, on va les faire travailler 12 heures par jour pendant 300 jours par an, ou plus. Ça a été extrêmement difficile. Il a fallu qu'on abaisse les prix, les salaires, c'est-à-dire le revenu des gens, ceux qui gagnaient par mètre carré de tissu, pour les obliger à travailler aussi longtemps que ça. Car tant qu'on n'abaissait pas leur salaire ou leur revenu, quand ils avaient gagné ce qu'il leur fallait pour vivre, ils cessaient de travailler. Ils ne faisaient jamais 12 heures par jour. Tant qu'on a introduit les salaires de famine pour que les gens travaillent, soient obligés de faire ce qu'ils ne voulaient pas, travailler plus que 6 heures par jour pendant 7 jours par semaine. Ça, c'était la naissance du capitalisme. Et la deuxième exigence, c'était, quand on passe à la production mécanique, quand on fait un investissement coûteux dans des machines relativement compliquées, qui sont chères à mettre en place, il faut pouvoir prévoir la production que l'on va sortir et prévoir la quantité de travail dont on aura besoin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut imposer des normes de rendement. Et pour imposer des normes de rendement, il faut que tous les ouvriers se valent. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils travaillent tous au même rythme, qu'ils aient la même efficacité et le même savoir-faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aussi normaliser le savoir-faire nécessaire pour travailler dans le textile. Et c'est comme ça que vous arrivez à l'idée du travailleur, c'est-à-dire d'un individu qui preste, qui fournit un travail qui est quantifiable, mesurable et identique, quel que soit l'individu et quel que soit l'endroit du monde où il est fourni. Tous les travailleurs d'une même branche sont interchangeables, c'est la définition même du travailleur. Et c'est aussi, c'est là que commence ce que Lukács a appelé la réification, c'est-à-dire le fait de considérer le travail comme quelque chose qui est détachable de celui qu'il fournit, comme un objet, une marchandise qu'on peut acheter et dont l'origine n'a pas à nous intéresser. On achète une quantité de travail. Quelqu'un fournit une quantité de travail. Ce quelqu'un, c'est n'importe qui. Tous les travailleurs se valent, ils sont les prestataires d'une marchandise qui finalement est eux-mêmes, mais ça, on n'a pas besoin de le voir. Et cette conception du travail n'est plus possible dans l'industrie avancée. C'est-à-dire, comme vous savez, les industries avancées, qui sont informatisées, en partie robotisées, en tout cas largement automatisées, ne peuvent plus employer ce type de main-d'œuvre-là. Il n'existe que aujourd'hui dans le tiers-monde. Et dans certaines enclaves, une partie du textile, une partie seulement, Mais le gros du textile est passé à l'automatisation aussi. Dans la chaussure, une partie de la chaussure, pas la meilleure partie. Ce qui fait qu'on fait fabriquer ces produits dans des pays sans tradition industrielle, où il y a encore une main-d'œuvre tout venant, interchangeable. Mais chez nous, dans les industries avancées, en tout cas, je précise bien les industries avancées, on a besoin de gens qui ont de l'initiative, qui se sentent responsables de la marche de leur atelier et qui sont capables d'intervenir au moindre accroc. Quand vous avez une batterie de machines-outils automatiques programmées qui travaillent à la façon de ce qu'on appelle des robots sur des chaînes de montage automatiques, le moindre accroc est une catastrophe. C'est un flux continu. Alors, toute interruption du flux est catastrophique. Il faut donc une main-d'œuvre qui empêche l'interruption du flux en sachant réparer les accrocs qui interviennent, qui sont d'ailleurs relativement rares, tout de suite, et qui est un savoir polyvalent. Et finalement, dans les études les plus poussées qui ont été faites sur l'avenir de la classe ouvrière industrielle, elles ont été faites par un institut en Allemagne fédérale, on nous dit que le travailleur de type moderne, autonome, responsable, conscient de sa qualification polyvalente, capable d'initiative, de créativité dans son travail, finira par représenter 40 à 50% des salariés de la métallurgie. Ce qui est effectivement considérable. Donc vous aurez une classe ouvrière très qualifiée, autonome du point de vue existentiel dans son travail, dans la métallurgie. Mais est-ce que ça veut dire que le travail est devenu une activité humaine créatrice? Je renverse la question, je dis, que font les autres 50% de travailleurs de la métallurgie? Nous savons que ce sont des travailleurs dits périphériques, souvent des intérimaires, occupés à titre précaire, qui font le sale boulot, celui qu'on ne voit pas, celui qui n'est pas noble, qui sont licenciables au gré des fluctuations de la conjoncture, qui n'ont pas droit à la formation professionnelle permanente, etc., etc. Puis après, si nous sortons de l'industrie, qu'est-ce qui se passe? Nous savons que depuis 15 ans, les effectifs ouvriers de l'industrie ont diminué de 20%. Et la moyenne européenne, dans les années 70, c'était 40% de la population active travaille dans l'industrie, à la production. Aujourd'hui, la moyenne européenne est d'environ 30%. En Allemagne, il est encore de presque 40%, mais c'est qu'on vient de 48%. Et qu'advient-il des 70% de salariés qui ne travaillent pas dans l'industrie? Bien, nous le savons par des enquêtes américaines. Quels sont les emplois les plus nombreux et ceux qui vont se développer le plus vite? Alors, pour les États-Unis, qui sont le pays phare, le pays annonciateur toujours des développements à venir, les emplois qui vont se développer le plus et qui sont les plus nombreux sont les emplois de cuisinier, garçon de café, serveuse, aide-soignant, caissière, vendeur-vendeuse, comptable, etc., etc. Vous n'avez pas de métier noble là-dedans. Ah oui, et tout à fait en tête viennent les gardiens d'immeubles et le personnel de nettoiement. Nous sommes dans une mutation culturelle fondamentale. Et si je mets tant l'accent sur le recul par rapport au travail, la distanciation par rapport au travail, c'est qu'il est déjà en train de s'installer. Dans toutes les enquêtes que l'on a faites, y compris en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, il en ressort toujours que les gens, particulièrement ceux qui ont moins de 40 ans, ne veulent plus s'identifier à leur travail. Ils ne veulent plus, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une offensive aujourd'hui patronale, idéologique, même syndicale, qui redemande cette identification. Elle n'existe plus. Chez tous les 30 ans et moins, enfin à 80%, la réponse est toujours, nous, on n'est pas prêts de sacrifier notre vie pour le boulot et pour la profession.
Je peux le certifier.
On n'est plus prêts à faire ça. Ce que nous demandons à notre travail, c'est premièrement d'être intéressant, de permettre une implication et d'être socialement utile et d'avoir un sens. Si ça n'a pas de sens, que ce n'est pas socialement utile et que ce n'est pas intéressant, alors c'est un gagne-pain. Et on veut pouvoir en changer aussi souvent que possible pour ne pas devenir idiot. Ça, c'est l'attitude des travailleurs relativement jeunes vis-à-vis de leur profession et de leur travail. Pouvoir apprendre tout le temps, pouvoir changer de boulot parce que ce n'est pas si intéressant que ça, ou alors trouver vraiment le travail qui est une mission, qui est un investissement personnel, qui est une œuvre personnelle. Ce qui est relativement rare, il paraît qu'il y a 5% des emplois disponibles qui répondent à cette, d'après Bertrand Schwartz, qui répondent à cette définition. 5%. Bien. Donc, nous sommes en mesure de reprendre cette exigence vécue, qui est une exigence d'autonomie de la personne, d'émancipation de la personne, de liberté, de recherche, de quête d'un sens, de la reprendre et de dire au mouvement politique, au mouvement syndical, si vous n'êtes pas capable de vous emparer de ça pour permettre aux gens de donner une dimension militante, sociale, collective à leur exigence personnelle, effectivement, vous êtes foutus et nous tous avec. L'erreur des régimes dits du socialisme réel a été de croire qu'il y a une autre économie que l'économie capitaliste. Je ne dis pas un autre système économique, je dis une autre économie. Ils se sont aperçus, aujourd'hui, que la réponse est non. Il y a une seule façon économiquement rationnelle de gérer une entreprise, c'est la façon capitaliste. C'est-à-dire de rechercher le rendement maximum pour les facteurs de production utilisés. Ça ne veut pas dire que cette rationalité-là doit s'étendre à tous les domaines de la vie sociale et individuelle. Cela veut dire que si on veut qu'une entreprise fonctionne avec le moindre gâchis possible, le moins de travail, de peine possible, et le moins de panne possible, l'approche rationnelle est l'approche du manager capitaliste. Donc il y a un champ où cette approche capitaliste est légitime et même indispensable. Malheureusement, dans les pays dit du socialisme réel, on n'a jamais rien eu de tel. On ne connaissait pas les prix de revient. On ne pouvait donc pas mesurer les rendements. Donc, est-ce qu'on peut sortir du capitalisme? Certes, en posant que la rationalité économique, qui est la conduite de type capitaliste des entreprises, a un champ limité à la gestion des entreprises. Des entreprises productrices de richesses réelles. Mais ça ne veut pas dire que la société peut se donner des fins prépondérantes par rapport aux finalités de la valorisation du capital. Nous serons sortis du capitalisme lorsque les finalités, les buts que se donne la société et les buts que les individus considèrent comme les plus importants dans leur activité, dans leur vie, seront des buts non économiques, c'est-à-dire des buts culturels essentiels. Des buts de qualité, non plus de quantité. Il n'est pas du tout impossible, à mon avis, de passer à cette société non capitaliste, que personnellement j'appelle socialiste, de façon pacifique. Ce qui est indispensable, c'est qu'il y ait un pouvoir populaire suffisamment fort pour imposer au jeu de la rationalité capitaliste, économique, des limites si fortes que un immense champ d'activité diversifié et riche peut s'épanouir à côté du secteur propre de l'économie rationnellement capitaliste. C'est-à-dire que si nous restons dans le modèle de développement actuel, avec la répartition actuelle du travail socialement et économiquement créateur de valeur, alors nous arrivons à un éclatement complet de la société, avec en haut une aristocratie du travail, certes intéressante, qualifiée, peut-être responsable, peut-être créatrice, j'en sais rien. C'est à voir, car c'est une question politique et syndicale à débattre et à examiner vraiment à fond. Et d'autre part, un immense marais de gens sous-qualifiés qui finalement passent le plus clair de leur temps à satisfaire les besoins de superflu, les besoins de confort de ceux qui continuent d'avoir un travail bien payé et intéressant. C'est ça, l'éclatement de nos sociétés.
Et qu'est-ce que les syndicats doivent faire dans ce cas-là ?
L'évidence, le bon sens vous dit que lorsque la proportion de gens économiquement créateurs et socialement utiles par leur travail, lorsque cette proportion diminue, la seule manière d'avoir une société qui reste démocratique et un peu transparente, c'est de répartir ce travail intéressant sur le maximum de gens. Mais cela suppose que l'on réduise sa durée pour chacun et que l'on permette une formation beaucoup plus poussée, permanente, à tout le monde. Nous allons certainement vers des temps difficiles, pleins de conflits, mais qui ont au moins ceci de passionnant, que nous savons que des possibilités de libération, d'émancipation, de développement, et d'enrichissement de la vie s'offrent à nous qui n'ont jamais existé avant. Nous savons qu'il serait possible, par exemple, de réduire la durée du travail de façon à ce que chacun puisse avoir plusieurs vies. Non seulement plusieurs vies l'une à côté de l'autre, une vie personnelle, conviviale, de citoyen, de militant, de parent très développé, mais aussi plusieurs vies successives. Commencer par être, ouvrier d'industrie, pour devenir ensuite médecin, ou votre propre médecin. Passer plusieurs années de votre vie à construire votre propre maison, de vos propres mains. Prendre en main l'éducation et la formation de vos enfants, si vous pouvez en avoir. Même changer de famille, développer des activités artistiques et culturelles, fonder votre orchestre, par exemple, devenir musicien, passer plusieurs années au Bangladesh ou en Afrique centrale pour travailler avec des populations qui n'ont pas notre civilisation, notre mode de vie, apprendre d'eux, et essayer de voir s'ils ont des choses à apprendre de nous, ce qui est tout à fait probable. Développer de nouvelles technologies, ce qui ne demande pas nécessairement de grosses infrastructures industrielles, des technologies plus conviviales, permettant une plus grande part d'autoproduction rationnelle, apprendre à faire votre pain, etc. etc.
Ça m'intéresse. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver ?
À avoir plusieurs vies. Vous pouvez faire plusieurs choses. D'une part, vous pouvez militer là où vous vous trouvez, dans des associations et des syndicats, pour faire passer l'idée. Vous pouvez, comme l'ont fait les femmes en République fédérale d'Allemagne, exercer une pression irrésistible sur les forces politiques dominantes pour qu'elles acceptent l'idée que le travail, c'est pas nécessairement le travail rémunéré, mais qu'il y a d'autres activités qui sont humainement enrichissantes et socialement productives, et qui sont des activités qui se déploient qu'en dehors de la sphère du travail rémunéré. Donc que le droit de tout citoyen, si droit de la personne il doit y avoir, doit comporter le droit de ne pas travailler pendant de longues périodes tout en continuant d'être payé. Parce que cela est essentiel au développement de la personne. Et tout cela est possible avec le degré de richesse, de développement que nous avons atteint aujourd'hui. Il n'y a pas besoin aujourd'hui de réduire le revenu en réduisant la durée du travail.
Mais alors, qu'est-ce qui empêche de faire tout ça?
Ce qui l'empêche, c'est l'invocation continuelle de la nécessité d'être compétitif, de soutenir la concurrence internationale avec Singapour, le Japon et l'Allemagne du Nord, de ne pas pénaliser les entreprises créatrices, etc., etc.
À votre avis, quel rôle doivent jouer les syndicats aujourd'hui ?
Solidariser les forts avec les faibles, c'est une expression de Peter Glatz, qui était un des dirigeants du Parti social-démocrate allemand. C'est une très bonne définition. Il y a une chose que les syndicalistes et militants politiques de gauche ont compris, bien qu'ils soient très minoritaires, c'est que le syndicat de travailleurs est une forme périmée de syndicalisme. Parce qu'il ne organise, il ne regroupe que les gens qui ont un travail régulier et rémunéré. Et que si le syndicalisme doit jouer un rôle comparable à celui qu'il a joué dans le passé, il faut qu'il cesse de se considérer comme un syndicat de travailleurs et se transforme en syndicat de citoyens. C'est-à-dire qu'il a pour objet, non pas de défendre l'intérêt des gens en tant que vendeurs de leur travail, mais de défendre leur intérêt en tant que citoyens et en tant que personnes intégrales.
Je parle là dans le micro parce qu'on enregistre, c'est ça, non? Ah ouais. Donc peut-être quelques remarques par rapport au film, parce que je pense que, enfin pour beaucoup, cette notion de production de soi, bien évidemment, lorsqu'on entend un propos comme celui-ci, on établit un rapport avec ce que nous sommes en train de vivre. Et d'autant que je me souvienne qu'il y a à peu près encore 10-12 ans, vous aviez les livres de Dominique Méda, par exemple, Le travail, une valeur en voie de disparition, qui était d'ailleurs largement inspiré de cette thèse d'André Gorz. Vous aviez le Jeremy Rifkin aux États-Unis qui parlait de la fin du travail. Alors, bon, bien évidemment, la fin du travail, pas au sens anthropologique du mot travail, mais au sens de la fin du travail dans les sociétés industrielles ou post-industrielles. Et bon, ces débats, je me souviens, dans le cadre du mouvement de 95, vous aviez des maisons de chômeurs, par exemple, et il y avait une grande, grande attention de gens dont on dit que, justement, ils n'ont pas le temps de penser, mais qu'ils sont dans des situations de nécessité telles que ces thèses-là, ils y seraient par nature allergiques. Au contraire, dans les mouvements de chômeurs, on débattait beaucoup du revenu social garanti, du revenu minimum d'existence, du problème de savoir qu'est-ce que augurait cette société qui était dans un chômage structurel, endémique, tel que effectivement on constatait qu'il y avait de moins en moins de travail et qu'il y avait une contraction objective du volume de travail dans la plupart des grands pays industriels. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a en l'espace de 10-12 ans, à partir des années... il y a eu les 35 heures, qui a été un débat qui a orienté cette réflexion sur le travail dans le sens de la diminution du temps de travail comme nouvel acquis social. Et depuis 10-12 ans, on a eu un basculement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a là carrément une espèce de renversement, d'inversion quoi, de la situation. Je ne vais pas vous épargner les formules laudatives qui ont construit un autre type de rapport, enfin qui font prévaloir un autre type de rapport social au travail. Bon, il Il est évident que la vogue du travailler plus, ça restaure aussi de vieilles idées de nécessité. Hein. Ça fait le travailler plus, c'est quand même, on fait appel au ventre. Hein. Les 35 heures auraient pu donner lieu à... Ça n'a pas été, ça a été les 35 heures pour lutter contre le chômage. Donc, problème technique pour savoir comment on répartissait la pénurie de travail, comment lutter contre le chômage. Ça aurait pu être un débat de société formidable sur le rééquilibrage des temps sociaux. Qu'est-ce que c'est que cette place du travail salarié qui en prend de moins en moins, et comment il y a une autre place au niveau de, pour la subjectivité créatrice et pour des espaces, justement, comme dit Gorz, d'autoproduction. Or, bon, on est dans un contexte où, effectivement, ces thèses déjà utopiques, mais utopiques dans le bon sens, puisque toutes les réalités ont leur source dans une utopie, comme dit Édouard Glissant, nous paraissent encore plus utopiques, dans une espèce d'effet d'éloignement, compte tenu du contexte que nous traversons, où on assiste, pour ceux qui sont au chômage, par exemple, à des faits patents, c'est-à-dire le renforcement des droits sociaux par rapport... Le fait d'avoir des droits sociaux par rapport à un renforcement des devoirs, et notamment l'obligation impérieuse de travailler. Et par exemple, si on prend aujourd'hui les nouveaux statuts, vous avez celui d'auto-entrepreneur, vous n'êtes plus loisible même d'être chômeur. D'emblée, vous êtes dans une situation d'auto-entrepreneuriat que vous aurez plus ou moins choisi, mais qui fait que le chômage devient presque une situation luxueuse qui serait idéologiquement inacceptable par rapport à l'état de chômage structurel dans lequel nous nous trouvons. Donc on a une restauration effectivement du travail comme une espèce de nécessité impérieuse, un peu comme disait Arendt, le travail ponos, le travail corvée, mais le travail corvée, si on s'en acquit, qui va vous apporter des gratifications qui rachètent la pénibilité de ce travail, ou en tout cas la pauvreté de son contenu, notamment le fait d'avoir un salaire qui vous permette d'aller vous réaliser sur le marché avec un peu de pouvoir d'achat et acquérir quelques statuts symboles qui vous permettront de vous faire reconnaître. Il faut pas l'oublier. Donc voilà, ce sont des thèses qui ont un côté un peu provocatoire aujourd'hui. Et j'avais eu un entretien avec Alain Caillé, qui lui avait été à l'origine de la revue du MOS, le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, qui, dans les années 84-85, proposait cette idée du revenu minimum d'existence, qui est devenu le RMI, qui se transforma en RMI quelques années plus tard, parce que le revenu minimum d'existence est moralement inacceptable. Le fait de percevoir un revenu sans contrepartie de travail est une idée moralement inacceptable, qu'on soit de gauche ou de droite, vous pourriez réagir, puisque forcément, il faut une contrepartie. Donc, on avait mis une clause de conditionnalité, c'est devenu non plus un revenu minimum d'existence, mais un revenu minimum d'insertion. Et Alain Caillé disait, mais on ne peut plus débattre de ces questions-là aujourd'hui, par exemple, notamment de certaines thèses d'André Gorz, parce qu'elles sont devenues inaudibles dans l'espace public. Parce que les préoccupations sont aujourd'hui ailleurs. Les préoccupations sont beaucoup plus de l'ordre de la réduction des inégalités sociales, par exemple, qui devient un combat beaucoup plus prioritaire, à tel point que lui-même, qui était favorable à un revenu minimum inconditionnel, dit qu'aujourd'hui, dans le contexte des inégalités sociales que nous connaissons aujourd'hui, reste à savoir, parce que les expertises, de savoir si ces inégalités sociales augmentent ou si elles stagnent, là il y a des débats d'expertise contradictoires, disaient non, il faudrait militer aujourd'hui par rapport à l'idée d'un revenu maximum. Puisque lorsque vous avez un écart de 1 à 1000 dans des salaires, comme aux États-Unis par exemple, alors qu'ils étaient de 1 à 100 dans les années 75, l'idée de démocratie n'a plus de légitimité. L'idée de démocratie n'a plus de légitimité. Et donc, voilà un petit peu le contexte. Alors, une dernière remarque, et après on va discuter ensemble, c'est que dans son dernier ouvrage, parce qu'il y avait le dernier ouvrage d'André Gorz sur sa femme, Lettre à Dorine, qui était un ouvrage d'hommage à sa femme, d'adoration éclairée à sa femme, il avait écrit, toujours d'édition Galilée, un ouvrage qui s'appelait L'immatériel, sur l'économie de l'immatériel. Et André Gorz avait en quelque sorte précédé la récupération qui pouvait être faite de cette notion de production de soi dans le cadre d'un effort interne de réorganisation du capitalisme pour surmonter des crises et dû aussi d'un nouveau management, par exemple. C'est pour ça que je parlais d'auto-entrepreneur, c'est assez intéressant. Il y avait des thèses qui ont circulé aux États-Unis comme quoi, non, vous n'êtes plus des salariés. Vous êtes des entrepreneurs de vous-même. On a aussi cette idée qui peut circuler, c'est-à-dire que vous êtes invité vous-même en quelque sorte à vous percevoir, à vous envisager non plus dans un lien salarial, mais dans une capacité d'initiative, dans une capacité d'autoresponsabilisation qui fait que vous êtes invité à vous percevoir comme du capital vivant, que vous avez la possibilité ou non, la liberté ou non, de faire fructifier. Donc je pense que ce mouvement dans le management au niveau anglo-saxon, par capillarité, a un peu pénétré sur le territoire français pour donner une forme de ressuscé qu'on aura appelé quelque chose comme auto-entrepreneur, par exemple. Donc amener l'individu à se percevoir comme auto-entrepreneur, souscrire à des conditions de travail qui, pour autant qu'elles soient flexibles, précaires, dans le cadre d'une société qui évolue vers le travail discontinu, à quelque chose, en fin de compte, d'excessivement valorisant. Puisqu'on est amené, en quelque sorte, à surmonter des hard times pour se poser, en quelque sorte, comme un whiner, d'une certaine manière, et donc un entrepreneur plus encore de son travail, un entrepreneur de son existence, de sa vie, dans un monde chahuté par la mondialisation, et où effectivement, comme disait, la concurrence aride pour la survie entre les grands pôles économiques mondiaux fait que là-dedans, il y a aussi un certain nombre de dommages collatéraux qui fait qu'on doit dorénavant, en quelque sorte, se serrer la ceinture, faire les sacrifices nécessaires si on veut être encore dans la course et se souder tous coude à coude dans un espèce d'effort de guerre économique qui dresse l'Europe contre la Chine contre l'Inde, etc. etc. Et je pense que, pour terminer, je dirais qu'il y a quelque chose d'assez pathétique dans la situation qu'on vit, parce que si on se réfère à Marcuse, par exemple, qui lui disait on aura des sociétés qui vont vers l'automation, donc on aura... En quelque sorte, le travail humain sera de plus en plus délégué aux technologies de pointe. Et nous aurons finalement ce que Gorz appelle, lui, plus que l'appropriation collective des moyens de production, dans son idée des socialistes, il appelle ça l'appropriation personnelle et collective du temps, qui lui semble encore plus capitale, plus importante. Et Marcuse disait, on ira, même reprenant certaines thèses de Keynes, hein, dans les années 40, Keynes n'était pas un gauchiste, hein. Mais Keynes, il disait quand même, dans les décennies qui viennent, dans les années 40, 1940, disait, on va vers la semaine de 18 heures. On va vers la semaine de 18 heures à cause de l'accroissement de la productivité du travail. Donc on n'y est pas. On y va peut-être. Et donc, il se produit quelque chose par rapport à une espèce d'enthousiasme, d'euphorie qu'il pouvait y avoir, de confiance dans le progrès technologique par rapport au fait qu'on allait vers une réduction qui s'est quand même opérée du temps de travail. L'idée quand même qu'il y aurait une émancipation salariale, du rapport salarial au travail qui serait autorisée par le haut degré de développement des sociétés et les richesses accumulées. Or, ce qui est très curieux, c'est qu'on assiste à tout le contraire, puisque maintenant, c'est la mise en branle d'un certain nombre de ce qu'on appellerait maintenant des prérogatives sociales, une certaine sécurité sociale, au nom du fait qu'il y a une concurrence terrible au niveau de ce qui se joue au niveau de la mondialisation, de telle façon que si les Chinois travaillent 70 heures par semaine, comment les Français travaillant 35 heures par semaine vont pouvoir tenir le choc. Donc là, je fais écho directement aux obstacles qu'André Gorz exprimait dans ses dernières phrases, et des obstacles à notre réflexion qui sont loin d'être levés, quoi. Voilà. On peut peut-être discuter tous ensemble. Si vous avez des interventions, hein, on peut faire autre chose qu'un jeu de questions-réponses, hein, mais élaborer un peu notre réflexion ensemble.
Il y a une première chose, moi, qui m'a frappée dans ce film, alors sans doute parce que je fais partie de ces gens qui, selon les catégories de l'entreprise, ne travaillent pas, puisque je suis une intellectuelle et une artiste. Donc, alors, il y a quand même une chose, c'est que effectivement, il englobe sous le terme de travail tout ce qui est activité citoyenne ou activité d'une manière générale, même culturelle. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il n'associe pas pour autant une rémunération à tout ça. Alors, jusqu'où va la rémunération ? Quand effectivement on a un travail essentiellement intellectuel, et j'imagine qu'il s'est posé la question pour lui-même en tant que philosophe, est-ce que du coup on fait partie de ces gens qui dans une société auraient une rémunération citoyenne et non pas une rémunération de travailleur ? Idem pour les artistes. Du coup, le statut d'artiste professionnel, c'est quoi ? Est-ce que effectivement l'art du coup devient uniquement une question de développement personnel, ou bien est-ce que ça devient aussi une production culturelle ? Voilà, donc le statut de tout ça par rapport à la notion de salaire, qu'est-ce qu'il en fait, comment on peut penser la chose?
Peut-être, je vais peut-être vous répondre par rapport à un point, c'est que donc la thèse, de l'idée de principale de Gore, c'est de dire bon, l'émancipation de la société salariée, ce n'est pas aller vers une société de loisirs. Il peut y avoir du loisir ou plus de loisirs, ça c'est laissé à la discrétion de chacun, c'est pas un problème. Lui, il envisage cette mutation progressive dans le cadre du fait qu'il y a un revenu garanti à tout individu travaillant qui soit suffisamment élevé et pas justement misérable pour lui permettre de se vouer à d'autres activités dont il aura fait le choix, et que cela le mette relativement à l'abri du besoin pour lui éviter de sombrer dans les marges du travail précaire. Après, la deuxième chose, c'est que dans ces espaces d'autoproduction qui, en quelque sorte, c'est du travail ou de l'activité, qui se soustrait, qui n'est pas ravi par le capital, c'est-à-dire que c'est du travail qui est envisagé dans des logiques coopératives. Donc, production de soi, il ne faut pas oublier aussi les autres, c'est des relations intersubjectives, etc. etc. Donc, je pense qu'il y a, revient sur certains points, c'est-à-dire que pour autant qu'il y ait ces espaces de liberté où on produit les objets qu'on a envie de produire, où on produit un certain type de relations sociales, indépendamment des rapports marchands, et qui sont soustraits à la sphère marchande, ça n'interdit pas le fait de pouvoir vendre des choses ou d'être rémunéré pour cela. C'est-à-dire, c'est une création de valeur autonome qui est arbitrée par les individus, à un moment donné, qui créent leur activité. C'est pas du tout... je pense qu'il n'entend pas ça dans le cadre d'un exercice. C'est-à-dire, ça échappe à la sphère marchande, mais c'est pas pour autant que c'est du bénévolat, par exemple.
Quand au départ du film, il parle des 40% de travailleurs qui sont des gens dans l'entreprise, ou etc., et puis petit à petit 30%, les 70 autres dont il parle, jamais il ne cite le terme de chercheur, d'enseignant, d'intellectuel. C'est quand même assez surprenant, ça. Pour lui, les 70 autres, c'est voilà, des gardiens d'immeubles, des serveuses, des serveurs de café, etc. etc. Y a quelque chose là que je trouve surprenant en termes de statut professionnel dans une société. Effectivement, le débat sur la rémunération des intellectuels, c'est un vieux débat. N'empêche qu'il y a quand même des décennies pendant lesquelles la question semblait réglée. Alors que maintenant, effectivement, quand on voit ce qui se passe, les universités sont absolument inféodées au bon vouloir de l'entreprise et de la production. Le savoir devient une chose qui est complètement soumise à la rentabilité. L'éducation doit devenir rentable. Alors, voilà, pour moi, c'est une question qui est pas du tout réglée dans ce qu'on a entendu ce soir. Alors bon, je sais pas, peut-être que par ailleurs, il la règle.
Oui, moi, suite au film qu'on vient de voir, je voudrais partager avec vous deux réflexions. D'abord, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il dit qu'à un moment donné, il est nécessaire, absolument nécessaire, de par rapport à un travail, d'être rémunéré. Et en fait, moi, enfin, avec avec des conversations que j'ai pu avoir avec d'autres personnes, je me disais des fois, mais si on supprimait les loyers à la population, on crée la révolution parce que il me semble qu'actuellement la part dans le budget des familles, la part des loyers dépasse parfois les 50%, enfin est une part assez énorme, et que alors là en plus on rentre dans la question de la propriété, mais si enfin il y a quelque chose de sur la gratuité de certains biens qui du coup pourrait peut-être permettre à l'être humain d'avoir le nécessaire vital et de pouvoir se consacrer et de pouvoir envisager son existence d'une façon différente. D'autant plus que moi, par rapport aux réflexions qui ont été déjà faites, je me disais, mais en plus, il y a eu des exemples dans le passé, quand on a voulu de faire des allocations, enfin rétribuer les êtres humains d'une manière ou d'une autre, souvent ce qui s'est produit par, je pense notamment aux APL. À un moment donné, on a voulu créer les APL, donc aider notamment les étudiants à se loger. Et il me semble qu'on a constaté parallèlement une augmentation des loyers. Et donc du coup, les étudiants n'étaient pas plus aidés, puisque ce qu'ils achetaient, enfin ce qu'ils prenaient avant pour moins cher, là ils avaient une aide, mais ils le prenaient pour plus cher. Donc à mon avis, il y a réellement une question de gratuité qui se pose, et aussi de la question par rapport à la propriété dans la société aujourd'hui. Mais et puis je pense que il y a une question par rapport à la rémunération pécuniaire. Quand on parle de gratuité de besoins vitaux, après, est-ce qu'il y a forcément besoin d'une rétribution? Moi, c'est une question que je me pose. Alors par contre, une autre réflexion que je voulais partager avec vous ce soir, c'est par rapport, enfin, dans le documentaire qu'on vient de voir, on parle de la société superficielle, de ce qui occupe nos vies de manière superficielle. Et c'est vrai que, enfin, moi, il y a vraiment quelque chose, une réflexion que qui vient en moi, qui est de dire que l'être humain est pris dans une société où le travail est extrêmement présent, tout ça, mais même en dehors du travail, l'être humain meuble sa vie par des choses superficielles, parce qu'il y a quelque chose, il y a peur du néant. Et aujourd'hui, aller dire à quelqu'un je fais rien, c'est dramatique, ça, parce que je pense que on a l'inutile, ne rien faire, c'est aujourd'hui problématique. Et effectivement, je suis peut-être un petit peu dans le rêve, hein, parce que c'est vrai que la première chose à quoi on pense, c'est quand même gagner notre croûte, c'est quand même travailler pour pouvoir manger, hein. Donc effectivement, mais en même temps, plus loin que ça, je veux dire, si on avait de quoi manger, de quoi se loger, il me semble qu'il y a aussi une peur du néant, une peur du vide qui est assez présente. Alors, pour finir, dans la description qui est faite dans le documentaire, je trouve que le chercheur décrit bien ce qui est Et à mon avis, comme d'ailleurs, je pense, Marx a très bien décrit le capitalisme, Pickens a fait des constatations aussi, mais dans l'imagination du futur, des fois, c'est un peu... Et je me disais, il nous parle de vie côte à côte, de plusieurs vies côte à côte, ou plusieurs vies... Et en fait, alors je ne sais pas ce que vous pouvez en penser, mais je me dis, par exemple, avoir plusieurs vies, il a dit plusieurs vies familiales. Mais je me demande si l'être humain est fait pour la mobilité. Et enfin, moi, il me semble observer un besoin de stabilité, un besoin de repères, un besoin de choses immuables qui ne bougent pas. Et que la société... Qui nous propose comme une société de rêve, en fait, elle est pleine de mouvements, donc d'incertitudes, donc d'instabilité. Et est-ce que c'est vraiment la recherche de l'être humain? C'est une question qui est posée, quoi. Je voulais dire aussi autre chose. Ben non, je dirai peut-être plus tard. Voilà.
Et une autre intervention ?
Oui. Oui, moi, je crois que là, ce qu'on voit, c'est effectivement ce qu'est la pensée de Gorz en 90, mais que ensuite, il a évolué dans sa pensée, et en particulier, il a évolué sur les thèmes écologistes. Et donc, à la fin de sa vie, il a écrit certains textes dans lesquels il défend l'idée de la décroissance, entre autres. Et je crois que c'est là, peut-être, qu'actuellement, on peut retrouver un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, dans les années 90, ces idées-là avaient commencé à émerger, qu'elles ont été un peu forcément détournées, mais qu'aujourd'hui, on retrouve ces idées-là à travers, justement, ces mouvements qui sont... un peu en construction, un peu minoritaire, mais qui se posent les mêmes questions, à savoir, par exemple, la question du revenu d'existence qui est actuellement reposée et qui est la question de la liaison justement entre revenu minimum et revenu maximum qui sont liés et qu'on ne doit pas séparer, etc. Et je pense que la question du travail est reposée à travers justement ces mouvements qui prennent en compte aussi la question écologique parce que c'est complètement lié. Et que les aspects sociaux, écologiques, on le sait bien, sont de plus en plus liés. Et je crois qu'aussi que, par rapport à ce que disait Madame tout à l'heure, moi, ce que j'ai compris, en tout cas, de ce qu'il dit, c'est que pour lui, les gens qui font un travail intellectuel, ils sont dans la minorité dont il parle. Ils ne sont pas dans cette majorité qui, effectivement, a un travail inutile. Et pour lui, voilà. Et c'est vrai qu'ensuite, il a pu y avoir une évolution qui a fait que, mais qu'à l'époque, il pouvait encore dire ça, je pense que... voilà. Et donc, je crois qu'il ne faut pas... Enfin, moi, la manière dont tu parlais tout à l'heure me semblait un peu pessimiste sur, finalement, le fait qu'en gros, on serait vraiment reparti complètement en arrière. Je crois que non. Je crois que ces questionnements-là sont toujours là, que dans les années 90, c'était des questionnements qui étaient minoritaires aussi, et qu'il le reste, mais que petit à petit, je pense qu'il y a des choses qui se reconstruisent, quoi. Et que quand on sait, par exemple, qu'aux États-Unis, dont il dit dans le film qu'ils sont toujours en avance sur nous... pour le meilleur et pour le pire, bien évidemment. Aux États-Unis, on constate qu'il y aurait 30% de la population qui est en dehors du système du travail. Ce qu'on appelle les créatifs culturels, bon, ce qui ne veut pas dire grand-chose, enfin, ce n'est pas un terme que moi j'apprécie, mais on les désigne sous ce terme-là. Et il y aurait 30% de la population aux États-Unis qui construisent leur vie d'une autre manière que par le travail salarié. Donc c'est pas rien, 30%, et je pense qu'en France et dans les pays occidentaux en général, ça doit ressembler à ça, quoi. Sinon, moi, il y a aussi deux, trois trucs qui m'ont vraiment intéressé dans ce qu'il a dit. C'est, d'une part, quand il dit qu'il n'y a pas d'autre économie que l'économie capitaliste, ça, je trouve ça très, très fort, parce que vraiment, il faut le dire, quoi. Il faut le dire, et il faudrait vraiment s'interroger là-dessus, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on essaie de nous vendre, c'est bien... une autre économie qui serait une économie verte ou une économie je ne sais de quelle couleur, mais qui est encore le capitalisme, bien évidemment. Mais là, dire ça, moi, ça me paraît vraiment intéressant. Et je pense aussi à ce que peut dire quelqu'un comme Serge Latouche, qui a théorisé la décroissance et qui dit un peu la même chose et qui est très critiqué en fait dans les milieux intellectuels parce qu'on dit en gros, on continue à défendre l'idée que il pourrait y avoir une économie indépendante du social, quoi, alors que c'est pas possible. Et l'autre chose que je trouve importante dans ce qu'il a dit, c'est à la fin quand il dit que les syndicats devraient être non plus des syndicats de travailleurs, mais des syndicats de citoyens. Ça me paraît aussi essentiel par rapport à ce que pourrait être l'évolution et peut-être une manière de s'en sortir du monde syndical.
J'aimerais réagir par rapport à ce que vous disiez, peut-être sur un point aussi, pessimiste, un peu agacé par le climat régnant. Ouais, ça c'est un peu énervé, ouais. Mais par exemple, c'est vrai que par exemple la revue les périphériques, là on a initié il y a 2 ans avec Claire Villiers qui était cofondatrice d'Agir, un projet d'ailleurs, si pour ceux que ça intéresse, on a ramené l'appel s'appelle Travail et démocratie. Donc qui réunit beaucoup de des collectifs de salariés, des chercheurs, des médecins du travail, des syndicalistes, tout ça, sur les questions de déni de démocratie dans le monde du travail et la pertinence ou pas de reposer de vrais enjeux démocratiques au sein des organisations, que ce soit des institutions, que ce soit l'entreprise, etc. Par contre, j'aimerais faire une petite, puisque dans le sous-titre, il y avait l'introduction du mot artistique. Alors, par exemple, là où moi, je suis pas trop en connivence sur certaines formulations d'André Gorz, c'est que je pense qu'il ne faut pas prendre le salariat comme cette espèce d'univers homogène de l'aliénation humaine. C'est-à-dire que on voit bien, par exemple, dans le projet qu'on fait, on travaille avec, y a des chercheurs qui ont bien montré que vous avez des écarts, par exemple Schwartz, entre le travail prescrit, la contrainte au travail, ce que vous devez exécuter, faire, et le travail réel. D'ailleurs, il y a toujours une possibilité pour l'individu, même dans des situations de travail jugées contraignants, hyper contraignants, une possibilité d'ajustement. Il y a encore de la place pour la subjectivité créatrice. C'est-à-dire, il y a toujours un écart entre le travail prescrit et le travail réel. De la même manière, on peut se poser le fait de savoir qu'il y a une créativité aussi qui existe dans un certain nombre de pratiques professionnelles. C'est-à-dire que la créativité n'est pas l'apanage des professions artistiques, intellectuelles, scientifiques. Par exemple, moi, j'étais dans un café philo à Saint-Pétersbourg. On me disait « Ah ouais, tu te racontes, toi ? Alors, le conducteur de train, il est créatif. » Parce qu'il y a l'idée de la répétition. Mais on est tombé sur une étude qui a été faite avec des cheminots qui parlent de leur travail. Et indépendamment du caractère répétitif de ce travail-là, qui est vraiment bon, qui serait avec l'OS une espèce de travail qui brillerait justement par la pauvreté de son contenu, non, il y a des conducteurs de train qui parlent de la beauté de la courbe parfaite sur une certaine portion du rail. Et ils en parlent d'une manière très sensible. Donc, moi, je disais, par exemple, j'ai jamais été d'accord avec la formule d'attaque. Je disais, la culture n'est pas une marchandise. Alors, dire oui, les artistes, ouais, nous ce qu'on produit, c'est pas de la marchandise. Et oui, tous les autres, oui, allons-y, c'est de la marchandise. C'est. Lorsqu'on parle avec des vignerons, lorsqu'on parle avec des artisans, lorsqu'on parle avec des ouvriers qualifiés, la question n'est pas aussi tranchée entre ce qu'on appelle travail contraint, source d'aliénation et expression de la créativité individuelle ou collective dans le cadre de ce travail-là. C'est des questions. Moi, il me semble qu'il faut être très. D'ailleurs, production de soi, moi, j'ai un peu travaillé là-dessus. C'est intéressant parce que production, même bon, producere en latin, mettre en avant. Produire des preuves de l'efficience de quelque chose, d'un savoir-faire, mais il y a aussi au niveau grec le poïen, hein, faut bien savoir, poïen, c'est faire, inventer, donc et c'est aussi le nom donné à la poésie. Donc pour ça que ce terme de production de soi est intéressant. Donc la question finalement devient, c'est la possibilité d'expression de la subjectivité créatrice à quelque degré que ce soit. Dans ce que nous thématisons comme le monde du travail aujourd'hui. Et je crois que cette question de cette aspiration à une certaine forme de réalisation de soi ou de production de soi, en tout cas d'épanouissement des forces créatives qui est en chacun, c'est une aspiration qui ne concerne pas simplement, disons, des professions qu'on regarde comme relativement privilégiée. Je crois que c'est une aspiration très diffuse, compte tenu du fait qu'il y a quand même une créativité des pratiques professionnelles. Je pense que c'est important de le souligner. Même si, moi, j'ai discuté avec des artistes, ils ne sont pas du tout d'accord. Et on, bon. Mais j'aime bien la phrase de Renoir qui dit de Jean Renoir. Hein ouais, qu'il y a une captation, un monopole quoi, de la créativité dans. Il y a des différences, ça c'est clair. Hein. Il y a des différences, mais. Hein? Oui, Jean Renoir, c'était non, c'était son père. Il parlait de son père qui disait moi l'art, je ne sais pas ce que c'est, c'est pas mon problème. Pour moi, il dit c'est pas l'art, être artiste, c'est pas un métier. C'est Auguste qui disait ça, Auguste Renoir. C'est pas un métier, c'est la manière d'exercer n'importe quel métier. La manière, vous cultivez l'art du jardin, vous n'êtes pas simplement un besogneux au jardin, vous devenez un jardinier. Et l'art du jardin, vous, c'est la manière singulière, subjective, mais au sens puissant du terme, c'est-à-dire j'imprime ma sensibilité personnelle à quelque chose. Par exemple, nous, on avait projeté un film de Jean-Daniel Pollet qui s'appelait La Forge. C'est un très beau film. Une dernière forge dans le Perche, où on voit des ouvriers qui font un travail terrible. Les forgerons, les derniers forgerons. Donc, voilà, un travail dur. Et ils ont la fierté de concevoir alors, le moule initial qui va donner la forme de la pièce. Et là, on retrouve quelque chose presque d'aristotélicien, quoi. C'est-à-dire produire vraiment le moule, la techné, l'art, produire la forme à partir de laquelle toutes les pièces vont être répliquées. Et ils se partagent cette responsabilité entre eux, cette fierté qui circule par rotation, de produire la pièce initiale, de forger la pièce initiale, de forger le moule qui donnera naissance à toutes les pièces ensuite produites en réplication. Et là, il y a quelque chose de cette notion d'art, d'aura, d'une pièce, de quelque chose, même dans le cadre d'un travail qui surtout étonne par sa dureté, sa pénibilité. Donc il y a quelque chose, curieusement, dans l'être humain qui fait qu'on arrive toujours à une espèce d'impossibilité pour d'arraisonner totalement l'individu pour en faire une utilité, pour en faire un total exécutant. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des travaux pénibles. Moi, j'ai travaillé Orangine à la chaîne. C'est intéressant. Vous n'existez pas. Il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas de latitude pour un individu d'une forme d'épanouissement si on lui demande de dégager des bouteilles à moitié vides, dégager des bouteilles à moitié pleines. Pendant une heure et demie, vous pouvez penser à rien d'autre que ce que vous êtes en train de faire. Ça, effectivement, ça existe. Et là, certainement, les nouvelles technologies, si elles arrivent à suppléer à cette damnation, oui, là, elles sont utiles. Mais il y a à bien réfléchir à qu'est-ce qui se produit en termes de créativité. Comme disait Prigogine, il disait, la créativité, ce n'est pas la pure affirmation de la subjectivité créatrice. La créativité, c'est une résistance. Ça résiste. Et c'est pour ça que les luttes sociales sont si créatrices et si inventives, souvent. Hein, ça résiste, ça s'ingénie à ne pas plier, ça s'ingénie à ne pas se soumettre. Ça se soumet, mais en même temps... Ça montre que ça peut se soumettre. Et ça ne se soupait pas, parce que ça se produit ailleurs et ça ressurgit. Donc il y a quelque chose qui est pas effectivement là, qui fait qu'on peut être optimiste.
Moi, je pense que justement, il faut bien voir que quand Gortz parle de la fin du travail, c'est pas de tout travail, mais c'est du travail au sens capitaliste, c'est comme il a bien rappelé au départ. Et du coup, évidemment, c'est une sorte d'idée pure, le travail au sens capitaliste, qui n'existe jamais vraiment concrètement. Et de fait, quand il y a un conducteur qui se laisse séduire par la courbe de ses voix, c'est déjà de la résistance. Et forcément que dans la réalité, il y a toujours déjà, y compris dans le travail ouvrier, de la réappropriation. Et dans une idée de travail productif et dans une idée de réappropriation du travail... Et ça, c'est déjà plus, ou c'est déjà une certaine forme de résistance au travail aliéné. Et je pense que ce qui est important, c'est que par rapport au temps du travail, il y a un renversement chez Gortz. L'idée force par rapport à ce que vous disiez sur le l'idée qu'on aurait peut-être que si on avait déjà toujours à manger et les conditions minimales d'existence garanties, bah peut-être qu'on serait angoissé parce qu'on n'aurait plus rien à faire. Et peut-être que c'est pas ça ce que vise l'existence humaine. En réalité, la force de Gort, c'est de dire bien si on rémunérait tout le monde, bien sûr que les gens auraient envie de travailler. Et si on avait l'existence garantie, on travaillerait. Et précisément, le chercheur, comme ce que madame se demandait, qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel, un chercheur, c'est quelqu'un qui précisément est rémunéré et il s'en sert pour travailler. Ça lui garantit le droit de travailler, en fait. Et donc, l'inversement de l'idée de travail, c'est de passer de « on travaille pour gagner de l'argent » au fait de « on gagne de l'argent et donc ça nous permet de travailler ». Et ça, c'est l'idée de positive d'un travail libéré qui n'est plus l'idée capitaliste du travail. Et quand vous remarquez que fallait pas penser le temps libre comme si c'était du bénévolat, effectivement, c'est l'inverse. C'est que dans la société actuelle, on a le travail salarié qui nous assure la subsistance et en marge, une sorte de temps libre bénévole où il y aurait des loisirs, des activités artistiques, etc. Là, il y a un renversement total. La majorité de l'activité et du travail, parce que c'est un travail, ça serait un travail libre parce qu'on aurait les conditions minimales d'existence garanties, même pas minimales, mais confortables d'existence garanties, et qui du coup, comme un chercheur a sa rémunération, ça nous permet de nous investir dans des tâches choisies, pas forcément intellectuelles, pas forcément artistiques, mais aussi dans, il parle d'ateliers d'autoproduction. Et donc ça, c'est du travail. Et tout ce qui est libéré par le temps libre, c'est du travail intellectuel, du travail créatif, du travail artistique. Et c'est là le cœur du travail. Alors, il faudrait peut-être utiliser un autre mot que travail. Mais ce qui devient minimal, c'est simplement la partie obligatoire et pénible du travail qui serait à répartir entre les différents individus. Et donc ça, effectivement, voilà, ramasser les poubelles, il faudrait que... Alors, peut-être qu'effectivement, les artistes ou les chercheurs devraient un peu ramasser des poubelles ou faire autre chose ou n'importe... faire en sorte qu'il n'y ait pas de poubelles, voilà, les recycler dans des œuvres, je ne sais pas. Mais ça libérerait... il fait basculer, en fait, le sens du travail, ça devient autre chose. Et l'activité, le chercheur, c'est quelqu'un qui travaille de manière non aliénée.
Lui, excuse-moi, juste, vous avez tout à fait raison. Gorz, il dit pas, il dit il y a une part de travail insuppressible, de travail contraint insuppressible, qu'il faut répartir au mieux. Mais d'ailleurs, c'est la thèse de Marx. Hein. Voilà, on peut travailler quelques heures par semaine. C'est un travail pour produire les richesses utiles, nous permettant ensuite de nous affranchir de la nécessité. Voilà, un peu comme disait Homère du travail, en disant c'est une violence faite aux hommes, mais pour les émanciper de la nature. Voilà, donc c'est un peu.
Oui, alors je reviens sur le mot que vous avez dit tout à l'heure, qui est la peur. Parce que, à mon avis, c'est fondamental. Ce qui fait que la société ne bouge pas plus vite qu'elle ne bouge, mais elle bouge, et moi je suis très optimiste, c'est la peur. Parce que, justement, cette peur des futurs qu'on ne connaît pas, c'est ce qui bloque beaucoup de gens sur l'impossibilité de foncer vers ce qu'ils souhaitent, leur épanouissement, en fait. Moi, sans vivre vraiment dans la peur, j'ai eu un parcours où jusqu'à une trentaine d'années, j'étais artiste peintre. Enfin, j'ai beaucoup bougé dans le monde entier. Et puis, à 30 ans, je me suis mis à faire une entreprise et à travailler comme un fou des 3000 heures par an. Et j'en suis sorti de tout ça. J'ai tout bazardé. Bon, parce que c'est possible. Mes enfants sont grands. Enfin bon, donc j'ai plus cette responsabilité. Tout le monde est autonome. Et je ne suis pas le seul à être comme ça. J'ai la chance d'avoir l'âge que j'ai et d'avoir vécu une période qui était plus facile, aussi bien pour trouver du travail ou pour vivre avec pas grand-chose à certaines périodes. Et aujourd'hui, finalement, je découvre, je m'auto-finance du temps libre. Mais vraiment, je suis pas du tout à la retraite, je ne touche pas ma retraite, j'ai cassé ma dernière tirelire pour me donner un an ou un an et demi pour finaliser un projet, parce que je suis propriétaire d'un lieu et je suis artiste, mais je n'ai pas eu le temps de travailler en tant qu'artiste pendant 30 ans. Je l'ai fait pour les autres en tant que salarié, pour des entreprises, pour le cinéma, la photo, enfin peu importe. Pour des finalités qui ne me plaisent pas du tout, puisque je travaillais pour la publicité, j'étais vraiment le cul entre deux chaises, parce que c'est à l'opposé de ce que je pense, et que je pense que le meilleur de soi-même, on doit le donner pour des choses qui sont constructives, et non pas pour alimenter cette machine, justement, qui continue à faire peur à tout le monde et à proposer la contrepartie, c'est-à-dire travailler plus pour s'acheter des choses inutiles qui vont compenser le mal-être que l'on vit dans le travail, parce que fondamentalement, c'est ça. Et je vois que les gens qui n'ont plus peur sont les gens qui changent de vie, qui prennent des risques et qui, au fur et à mesure, s'épanouissent. Et parce qu'ils s'épanouissent, eh bien, justement, il n'y a pas du tout à avoir peur, parce que comme ils font exactement ce qu'ils aiment, eh bien, les choses viennent vers eux. Et finalement, à passer un certain cap, il n'y a plus d'angoisse à avoir du tout, puisqu'on est à sa place et que la vie se construit à travers ce qu'on dégage, c'est-à-dire ce bien-être, ce que l'on produit dans les rapports aux uns et aux autres. Et tout va bien. Et en fait, on n'a plus du tout à avoir peur, même si on n'a pas de futur visible très très loin. Je veux dire, moi, je me dis que tous les gens qui ont été ou agriculteurs, ou les artisans, tous les gens qui n'ont pas été salariés, je veux dire, sont habitués à cette peur, ou n'ont peur, c'est-à-dire, ou la confiance en eux-mêmes et à des futurs possibles qui soient constructifs. C'est ça la grande différence, je veux dire. C'est peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de salariés dans la société dont on fait partie. Enfin, il y a des visions qui sont très différentes entre quelqu'un qui a vécu pendant des dizaines d'années à son compte et qui a mené sa barque, je pense, et des gens qui, même avec passion, ont pu faire des métiers de salariés, parce qu'on n'est pas dans le même rapport aux choses. Et donc, c'est peut-être plus facile de passer le cap que quelqu'un qui a été salarié pendant longtemps. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que des gens qui se sont trouvés dans des difficultés, ou qui ont été licenciés après une période terrible d'angoisse, s'ils ont mené leur barque de façon à reconstruire un futur qui leur convenait complètement, et du coup, ils ont été soulagés d'un poids énorme, c'est-à-dire qu'ils ont une nouvelle vie qui s'ouvre à eux. Enfin, ça, c'est le côté positif que j'amène, parce que j'y crois extrêmement fort. Moi, dans le lieu que je suis en train de faire, je refais tout en autoconstruction. Enfin, bon, je réhabilite un local, et ce local, on y fait déjà des projections de films. D'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir proposer le film que j'ai vu ce soir à des gens du quartier où on a 25-30 personnes qui viennent et qui faisons des échanges autour de différents sujets. Et c'est des lieux comme ça. Je sais que ça SM, il y en a plusieurs. Et c'est que chaque personne qui construira des lieux comme ça et qui échangera, elle fera changer le monde. Et c'est ce vers quoi il faut aller de toute manière.
Notre intervention ? Moi, par rapport à ce que vous venez... Oui, madame ?
Non, c'était juste... S'il n'y a personne qui demande le micro, je me permets de prendre encore un petit temps de parole. C'était par rapport à ce qui a été dit en termes de rémunération des chercheurs. Les chercheurs, à l'heure actuelle en tout cas, le salaire qu'ils ont, ce n'est pas un salaire qui leur permet de travailler. C'est un salaire qui est établi pour eux selon une grille indiciaire au même titre que n'importe quel salarié. Je veux dire, on n'est absolument pas, à l'heure actuelle en tout cas, dans cette idée d'une rémunération qui est donnée à un chercheur pour qu'il puisse travailler. Sinon, on en donnerait à tous les chercheurs, a priori, si l'idée était déjà acquise. Parce que le nombre de chercheurs qui sont sur la touche et qui n'ont pas le droit de travailler, voilà, sans commentaire.
J'aimerais revenir sur ce que vous disiez sur... justement, c'est-à-dire que effectivement, il y a, par exemple, il y a eu le terme comique, la formule comique, qui est la plus comique d'ailleurs des formules hasardées récemment dans le débat, c'est celui de flexi-sécurité, qui a mourir de rire parce que, c'est extraordinaire parce qu'on vit dans un monde où justement on essaye de surmonter des contradictions d'une manière à maintenir les deux termes de la contradiction. Et d'essayer de les surmonter de telle façon que finalement on se retrouve avec des formules de schizo, quoi. Parce que c'est comme le développement durable, la croissance durable, voilà. Et donc, les oxymores, voilà. Et je suis complètement d'accord avec vous, ce que vous disiez, c'est que je pense qu'il faut discerner entre. Effectivement, bon, il y a du démantèlement de droits sociaux, il y a une précarisation des statuts dans le monde du travail. Il y a une différence entre justement cette précarité, cette flexibilité, cette vulnérabilité qui passe par une plus forte individuation du rapport au travail, par exemple, qui conduit à organiser socialement, institutionnellement, une certaine forme d'insécurité salariale et sociale par la même occasion. Et ensuite, à partir d'une sécurité sociale dont il faut sans arrêter de penser qu'elle nous est allouée, parce qu'on essaye de plus en plus d'habituer les gens à cette idée qu'elle serait allouée de plus en plus. Une fois qu'on a ça, effectivement, la notion de revendiquer la possibilité pour chacun ou à travers des collectifs une grande plasticité de ses conditions d'existence et la capacité d'arbitrer, de créer son travail, de peut-être pas accumuler les devenir moine bouddhiste, ensuite footballeur, comme dit André Gors, mais en tout cas de tenter de prendre des risques, prise de risques comme ça, en quelque sorte de scoltiner une certaine forme d'instabilité de la vie. Parce que je veux dire, vous parliez de stabilité, mais dépend de quel point de vue on se situe. J'aurais plutôt tendance à croire qu'il y a une instabilité inhérente au mouvement de la vie, qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément une menace, qui est aussi de l'opportunité, qui est aussi... Mais il ne faut pas que cette instabilité soit confinée à ce qu'on imagine aujourd'hui comme étant de la précarité, et qu'elle s'organise socialement, qu'elle soit instituée en tant que telle, par rapport à une minoration des droits sociaux. Ça, c'est autre chose. Parce que là, je suis bien d'accord. Là, on bascule, on est là. Mais cette capacité d'évolution, d'autotransformation, cette capacité de faire bifurquer son existence dans un sens ou dans l'autre, et qui nous serait donné justement dans une société où on arrive à une minoration du rapport exclusivement salarial dans le sens instrumental au travail, c'est quelque chose de fondamental, de très important. Et c'est pour ça, par exemple, que lui, il a eu beaucoup de problèmes, Gors, avec les syndicats notamment, parce que quand il parlait, il ne voulait pas réduire le travail, bon, qui a pour nous le sens qu'on lui connaît, etc., qui travaille, c'est-à-dire, on entend par travail essentiellement l'activité rémunérée. Je veux dire, indépendamment du contenu qu'on donne, du sens ou de la valeur qu'on donne au travail, parce qu'en plus le rapport social au travail il est très contrasté, même dans le monde du salariat. Je veux dire, nous on travaille avec Travail Démocratie, il y a des gens qui sont en lutte, qui sont très attachés aux valeurs du salariat. Il y a des gens qui sont pour des sociétés post-salariales, il y a des gens qui sont dans l'entre-deux, il y a des gens qui... C'est très très contrasté, mais toujours est-il que... j'ai perdu le fil de ma pensée, merde. J'ai fait une occurrence et puis, excusez-moi, j'en étais où ? Qu'est-ce que je disais ? Oui, sur la. Oui, d'accord, oui, voilà. Donc, dans la représentation, ce qui est travail, c'est l'activité rémunérée. Donc, et quoi qu'on fasse, c'est très difficile de. Vous avez certains pays, par exemple, en Italie. Si vous leur parlez d'activité, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a véritablement... Le travail est soudé à l'idée de rémunération. Mais en plus, la rémunération, c'est ce qui produit la valeur du travail. La valeur statutaire, la valeur symbolique, la valeur d'échange et tout ce qu'on voudra. C'est-à-dire qu'à la rigueur, vous pouvez faire des choses passionnantes, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Du fait même que ce n'est pas rémunéré, ça va être insignifiant. Ça va être superflu, ça va être accessoire. Et ça, c'est le drame. Parce que si on évolue dans un système de représentation, c'est pas simplement la valeur économique du travail, c'est aussi la valeur statutaire. Et ça, c'est pour ça aussi que ça pèse tellement que c'est très difficile aussi pour des individus de prendre le risque. Parce qu'il y a le regard de l'autre, il y a... Mais alors, qu'est-ce que tu fais ? Oui, c'est bien beau tout ça. Ah oui, oui, c'est bien beau. Voilà, bon, la liberté, ça nourrit pas son homme, etc. Et donc, on a des systèmes de représentation qui sont, que je pense qu'essaye de casser justement André Gors, de même réhabiliter cette notion d'activité productrice individuelle sans que ça confine pour nous à ce qu'on entend par loisir ou des formes d'activité un peu dilatoires, de délassement ou de divertissement qui sont nécessaires mais qui ne sont pas l'enjeu de cette chose-là. Et donc, par exemple, lui, il a été Gors avec les mots activité, et les syndicalistes ont dit « Ah, ça y est, maintenant, le patronat veut nous vendre. Fini le travail, fini le salariat, activité. » Et c'est vrai que Il y a par exemple des patrons de gauche, le mouvement du CJD, qui était un peu en avance sur un certain nombre d'idées qui pouvaient, où il y avait des connexions avec celles de Gors, parlait effectivement de multi-activité. Bon, il y a eu il y a eu certains syndicats qui ont réagi en disant « Moi, j'entends le mot activité, je sors mon gun. » parce que la notion, je veux dire, on est quand même dans des sociétés où les valeurs associées au travail salarié, comme à gauche, à droite, sont très importantes. C'est un ancrage, c'est un équilibre historique qui s'est produit. C'est une négociation historique entre les mouvements sociaux, les syndicats et puis des problèmes de logique redistributive par rapport à l'usufruit du capitalisme. Donc on est aussi sur des problèmes qui ne sont pas faciles à liquider. Et le mot activité, effectivement, moi on pourrait parler d'activité salariée, on pourrait parler d'activité non rémunérée, on pourrait parler d'activité somptuaire. Mais en dernier lieu, c'est absolument extraordinaire que la capacité d'habilitation de l'activité que vous menez, dès lors que l'on constate qu'elle est rétribuée, rémunérée, même par rapport à des gens qui auront une ouverture d'esprit totale, qui se diront de gauche, qui se diront etc. C'est-à-dire on a véritablement quelque chose au niveau des représentations culturelles du travail qui est très très fort, là, qui sont vraiment de sérieux obstacles à lever, il me semble, quoi. Qui font des pressions terribles pour les individus, justement, qui ont envie de vivre leur vie autrement et d'avoir un autre rapport au travail, quoi. C'est vrai que c'est pas facile.
Si personne ne veut reprendre la parole. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que je pense qu'effectivement, à mon avis, on peut associer le travail à l'effort. Et à ce moment-là, dans le film qu'on a vu, André Gors disait on pourrait avoir plusieurs vies successives, commencer boulanger, puis devenir médecin, puis etc. Et voilà. Moi, je voudrais pas qu'on me fasse un procès en disant vous sous-estimez l'être humain, mais je me demande si à un moment donné, j'entends bien qu'effectivement, ce que vous disiez, monsieur, un agriculteur ou des gens à leur compte n'ont pas la même vision que des gens salariés, mais effectivement, il y a quelque chose. Est-ce que l'être humain est dans le désir de fournir l'effort, de changer de conditions voilà. Alors, par contre, moi, ce que je voulais dire, parce qu'il me semble que, effectivement, j'avais entendu dire que, le film le dit d'ailleurs clairement, la classe ouvrière tend à s'amoindrir. Il y a 40% d'ouvriers, puis ça diminue. Et effectivement, comme disait André Gors, les métiers qui vont être amenés à se développer et à se développer rapidement sont les métiers de caissière, tout ça. Et en fait, moi j'avais entendu le chiffre qu'il y avait dans la société 90% de gens salariés. Ce qui, le pourcentage est assez frappant parce que effectivement la population, l'organisation sociale, elle est vachement liée au salariat parce que quand on a 90% d'une population qui est dans le salariat, bah forcément ça engage beaucoup. Et ça me faisait penser, on pense ce qu'on veut de politique, mais il y a André Madelin qui avait, avant l'UMP, Alain Madelin qui, avant l'UMP, avait fait une démocratie libérale. Et l'idée de son mouvement, justement, c'était de dire aux gens, mais sortez du salariat, créez votre entreprise et tout ça. Et en fait,
C'était tous patrons, comme ça il n'y aura plus d'exploitation.
Voilà. Et en fait, de certains observateurs, j'avais entendu dire que le problème, c'est que sa tentative avait raté. C'est-à-dire que la proposition de démocratie libérale de tous patrons, il n'y aura plus d'exploitation, ça avait raté. C'est que le salariat s'était maintenu. Et que, voilà. Alors, après, moi, juste une dernière réflexion, c'est que pour revenir sur le travail égal effort, et pour reprendre la réflexion sur les chercheurs. Bon, moi, j'ai fait mes études, j'ai eu une maîtrise de communication, j'ai fait un mémoire de maîtrise. Bon, j'ai eu un petit travail d'écriture, voilà. Par ailleurs, j'ai été facteur, j'étais ouvrier dans les entreprises frigorifiques par mois. Et j'ai 27 ans. La réflexion que je me fais en ce moment, c'est de me dire le travail le plus dur, le travail qui demande le plus d'efforts, c'est le travail intellectuel. Parce que c'est dur de chercher des choses nouvelles, quoi. On a l'impression, enfin, ouais, c'est pas si simple d'être chercheur que ça, quoi. En fait, parce que finalement, un travail d'ouvrier, c'est peut-être physiquement éprouvant. Les études le montrent. Un ouvrier a une espérance de vie beaucoup moins longue qu'un chercheur. Mais n'empêche que et en même temps, moi il me semble que voilà, est-ce que derrière ça, enfin la question qui est derrière, c'est de me dire est-ce que l'ensemble de la population a envie justement de faire l'effort de chercher un monde meilleur, de chercher voilà. Et en plus de ça, enfin moi je vois. J'ai vu des gens, alors quand j'étais étudiant, ça me paraissait un peu bizarre, mais qui se lançaient à la fac et puis qui, alors que, bon, voilà, parce que certaines personnes étaient logées chez leurs parents, donc il n'y avait pas de nécessité, enfin, pouvaient continuer, quoi, s'ils le voulaient, mais que à un moment donné, non, parce que chercher, ça m'intéresse pas. Et moi, il y avait quelque chose de très fort, c'est que il y avait certaines personnes, je sais pas, alors voilà, je n'avais pas les proportions, mais il y avait une certaine catégorie de la population que ça n'intéressait pas. Et c'est pour ça que dans le documentaire, il dit on pourrait être en formation permanente. Mais il y a des gens, j'ai un peu l'impression que être en formation permanente, ça ne les intéresse pas. Et que du coup, c'est la question finale qui reste en suspens. Enfin, et qui, moi, j'ai pas trouvé de réponse. Si vous l'avez, je suis preneur. C'est quoi le bonheur? Parce que voilà.
Elle est un peu sévère, la distinction si nette que vous faites entre les professions intellectuelles et les professions. Moi, je récuse le mot. Profession manuelle, profession intellectuelle. J'ai jamais compris pourquoi on utilisait ces formules-là. J'arrive pas à comprendre. Enfin, je sais pourquoi. C'est une différenciation sociale qu'on opère, mais qui est très coûteuse, je trouve. Parce que le cognitif, la sensibilité et la pratique, c'est tellement lié. Même un sociologue qui est au CNRS, etc. Moi, je connais des amis sociologues, ils sont toujours. Alors, ils travaillent sur les questions, par exemple, sécuritaires. Ils vont voir les keufs, ils vont voir les bandes, ils vont voir les juges, ils sont toujours là, etc. Ils sont dans une pratique sociale. Donc. C'est pas, on juge, et je crois que par exemple le vigneron, nous on viendra à la fin du numéro avec des vignerons sur les vins vivants, tout ça. C'est extraordinaire ce qui se passe en termes de sensibilité. Je veux dire, entre une matière vivante comme le vin et un vigneron qui invente son savoir-faire en même temps qu'il fait et qui découvre des choses. C'est-à-dire que c'est pareil, moi, un travail manuel, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Imagine le degré de virtuosité qu'il faut pour réaliser certains objets, même qui ont une valeur, qui ont une finalité pratique dans la production. Voilà. À la différence de l'objet d'art qui a une vacuité, qui est justement la liberté du regard posé sur lui. Mais par exemple, dans certains objets, on a une dimension cognitive dans ce qu'on appelle les métiers du manuel qui est énorme. Et c'est dommage qu'on ait encore ce clivage entre profession intellectuelle, profession manuelle, parce que c'est très coûteux. C'est très coûteux, y compris, ça dégoûte les manuels d'aller vers les intellectuels d'aller vers les manuels, parce qu'il y a des malentendus pas possibles. On essaye de trouver ce qui sépare, ce qui confine, ce qui classe, ce qui catégorise, ce qui liquide des vraies questions, alors qu'au contraire, on devrait justement être beaucoup plus perplexe par rapport à la capillarité justement qu'il y a entre le cognitif, le sensible et la rationalité, choses comme ça. Hein. Y compris pour les artistes, il n'y a pas de travail plus concret. Donc, on peut s'interroger là-dessus.
Oui, alors je voulais répondre tout d'abord par un exemple à votre questionnement, pas sur le bonheur, parce que ça, je n'ai pas la réponse. On est tous en recherche, je pense. Mais j'ai vu il y a 2 ou 3 ans un film qui a été projeté par Belleville en vue dans le 20e. Et il s'agissait du montage d'une SCOP, qui était donc une entreprise, une imprimerie de luxe, de très très haut niveau de compétences. Ils faisaient des livres d'art. Et puis il y a eu un dépôt de bilan, ils étaient une 40aine de salariés. Et en fait, sur les 40 salariés, il y a une 20aine de personnes qui ont repris en main l'entreprise, il y a de ça peut-être une 15aine d'années, et qui fonctionne, et qui a même racheté une autre imprimerie avec une 12aine de personnes qui ont repris la suite. Alors tout ça pour dire qu'évidemment, donc, dans ces 40aine de salariés, il y avait donc la moitié, en gros 50% des gens salariés qui ne voulaient pas devenir indépendants, si je puis dire, enfin être partie prenante avec les risques que ça représentait de monter une SCOP. Mais bon, voilà, c'était 50-50 et ça s'est passé comme ça et ça fonctionne toujours. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent moins, mais ça donne un sens à leur travail puisqu'ils sont tous responsables de l'ensemble du travail et il y a rotation. Enfin bon, on pourrait en parler, voilà. C'était juste pour l'exemple des 50-50, quoi. Bon. Ça pourrait être d'autres pourcentages dans d'autres cas de figure, j'en sais rien. Mais enfin, c'est un exemple. Voilà.
J'ai pas pu voir le début du film, mais c'est seulement ses souvenirs de Gorz. Mais il me semble que dans ces années 88, enfin moi je l'ai vraiment connu dans ces années-là, il y avait quand même une idée de contrer une société qui nous conduisait à une aliénation, et surtout une aliénation d'une certaine partie de la population, dont ceux qui n'étaient pas complètement aliénés, finalement, bénéficiaient malgré eux. D'accord, c'est-à-dire la production des ouvriers et l'aliénation des ouvriers permettaient à des gens qui, même révolutionnaires, bénéficiaient de cette production. Donc il y avait une remise en cause de toute cette société et on essayait de tout mettre à plat. Dans les analyses de Gorz, bien sûr, il s'est démarqué du marxisme qui essayait de comprendre les mécanismes du capitalisme, qu'est-ce que c'était qu'un salaire, la plus-value, etc., etc., et qui aboutissait à des défenses syndicales un petit peu corporatrices. Et il ne faut pas négliger le salaire, c'est pas n'importe quoi le salaire, il faudrait le redéfinir. Bon, et il fallait réfléchir autrement. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les salaires de moins en moins existent. On n'appelle plus ça des salaires, on appelle ça des rémunérations. Il faudrait analyser exactement ce que ça veut dire. La plus-value est toujours empochée par les mêmes. Et deuxièmement, toutes ces idées qui étaient brassées pour lutter contre un type de société qui aliénait au maximum l'ensemble de la société. Parce que même si on ne travaillait pas dans des conditions aliénantes, on était aliéné du fait qu'on vivait de ce produit de l'aliénation. C'était quand même ça qui nous mentait. Sinon, moi, personnellement, j'aurais continué mon travail d'un télo et j'en aurais rien eu à foutre que d'autres. Puis ils n'avaient qu'à faire leur travail, ils n'avaient qu'à pas rentrer dans une usine, ils n'avaient qu'à pas, puis tout ça. Donc on sait bien que cette société, elle produit quelque chose qui fait que les individus ne peuvent pas se dégager parce que ce serait trop simple. On n'a qu'à les laisser, ces pauvres cons, puisqu'ils aiment s'aliéner, ils veulent des salaires. Enfin, c'est quand même pas ça. Faut pas rigoler quand même. Donc il y a une impossibilité, même pour ceux qui n'ont pas un travail aliénant, de sortir de ce processus de société dont il nous a été dit que d'ailleurs on ne sortait pas du capitalisme. Donc il faudrait réfléchir là-dessus. Et toutes ces idées qu'avait proposées Gorz, ben, je suis désolée, aujourd'hui, elles ont été récupérées. Et on est bien emmerdés. Parce qu'elles sont plus du tout, je remploie le mot, révolutionnaires. Et elles nous permettent, elles n'ont plus de, comment dire, ce ne sont plus des outils comment dire, qui soulèvent ou qui déséquilibrent quelque chose. Voilà. Elles ont été largement récupérées. Et aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Voilà. On est récupérées.
Tu veux dire par qui, Claudie ? Récupérées par qui ?
Ben, récupérées par le capitalisme ambiant aujourd'hui. Et on voit bien comment parlent les gouvernants, d'ailleurs, de la mondialisation.
Hein. Tu sais, j'avais dit, dans l'immatériel, Gorz disait, attention, production de soi, on va on peut l'instrumentaliser au sens, comme ce que tu disais. Et, mais ouais. Gorz, il avait bien mis les... On peut pas dire que c'est lui qui a
pas non.
Il avait même prévu, il a dit ouais, ça peut être entendu comme ça.
Tout à fait. Oui. Mais aujourd'hui, on est en plein dedans.
Ah oui, au niveau du management, oui. Ah ouais.
Moi, je voulais réagir sur ce que vous disiez. Je pense pas non plus que chacun ait en soi le besoin de fournir un effort maximum et de devenir forcément, par exemple, l'élite, que ce soit dans tous les domaines d'ailleurs, pas soit une élite intellectuelle ou une élite d'artisans, par exemple, d'excellence ou d'artiste, d'un pianiste qui consacrerait 20 heures par jour à travailler. Donc, évidemment, tout le monde n'a pas forcément ce sens de l'effort maximum et de sacrifice au travail en soi. Mais par contre, ce à quoi tout le monde aspire, c'est à une reconnaissance et à une place sociale. Et donc, pourquoi aujourd'hui on peut éventuellement se détourner d'un certain type d'effort et de formation, par exemple, ou de réalisation de soi, c'est parce que elle n'est pas forcément connectée à la reconnaissance sociale. Et parce que la reconnaissance sociale aujourd'hui, elle passe, comme vous avez dit, par la rémunération. Et que c'est la valeur, elle est quantitative. La valeur sociale qu'on a, elle est liée au chiffre du salaire qu'on touche. Et donc le pari, alors c'est peut-être complètement utopique, mais le pari que j'ai l'impression que Gorz fait, c'est de parier qu'on pourrait déplacer cette idée de valeur sociale dans un champ non quantitatif. Et c'est là où effectivement c'est très intéressant de savoir est-ce que c'est possible de déconnecter ça de la rémunération. Est-ce qu'on on peut se faire reconnaître pour un travail quand il n'y a pas de traduction en chiffres, quoi. Effectivement, c'est intéressant et chez lui, enfin, c'est assez lié à ce que j'ai compris à ce qu'il appelle la fiction de l'égalitarisme, qu'il soit de gauche comme de droite, et qui serait le fait qu'on naîtrait tous égaux, mais en un sens quantitatif, et que du coup, ensuite, nos différences de fonction et de rôle, ce serait une sorte de plus-value qu'on aurait ajoutée ou non à un capital de départ, et qui du coup justifierait des inégalités de salaire. Et donc, du coup, voilà, des patrons qui toucheraient un salaire extraordinaire et des gens non qualifiés qui toucheraient un salaire minimal. Donc, ça va avec l'idée, est-ce qu'il est possible de penser une égalité qui ne soit pas quantitative et aussi une répartition de valeur qui ne soit pas quantitative mais qualitative.
Surtout que par rapport à ce que vous dites, parce qu'il faut savoir, Gorz est aussi un féru c'est un économiste aussi. Donc il essaye de voir objectivement comment c'est possible, hein, que ce soit le revenu social garanti, enfin il y en a eu plusieurs, etc. Mais là-dessus, c'est vrai qu'il constate que dans le cadre d'un capitalisme, en quelque sorte, immatériel, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais... parce que j'ai toujours tendance à penser que l'immatériel c'est une des modalités du matériel, mais bon, ça c'est entre parenthèses. Mais il dit que effectivement la rémunération doit être disjointe aujourd'hui de la durée du travail, puisque la valeur du travail n'est plus liée à sa durée, parce qu'il y a des tas de processus très subtils dans l'accroissement de la productivité du travail qui fait que ça peut être disjoint le revenu et le travail, justement, qui permet de penser effectivement à un revenu suffisant, incompressible, permettant non pas aux gens comme ça de se projeter dans l'utopie, puisque lui il parle d'une société beaucoup plus pluridimensionnelle, des modes d'activité coopérative, la place des espaces d'autoproduction pour la subjectivité et l'intersubjectivité créatrice, et en même temps, effectivement, prenons cet outil performant qui s'appelle le capitalisme, surtout dans, par rapport à l'automation, par rapport aux nouvelles technologies, et faisons en sorte qu'il nous permette, en quelque sorte, du fait même de sa productivité, l'accession à cette société post-salariale, qui sera progressive. Il faut bien aussi imaginer là, le côté évolutif, progressif de sa conception-là. Mais c'est vrai que maintenant, bon, durée du travail, on revient, on n'est plus du tout là. On continue à considérer, voilà, durée du travail, voilà, etc., revenus correspondants, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, y compris dans le capitalisme par rapport à ça. Même s'il y a un déni que ces choses-là soient réelles, quoi, aussi. D'autres interventions ?
Un peu dommage, mais bon, c'est un peu une loi du genre. Moi, je crois qu'il y a effectivement, il y a des expériences qui existent. Moi, je voudrais revenir là-dessus quand même, parce que il y a, par exemple, des expériences. Je pense que, en particulier aux États-Unis, peut-être dans d'autres pays, des expériences de collectivités qui ont commencé à construire des vraies alternatives, et en particulier en s'appuyant sur un certain nombre de procédés, donc qui sont à revenu d'existence. Et un revenu d'existence qui est basé sur une monnaie locale. Et ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que c'est un moyen, finalement, de sortir du système en créant, et c'est tout à fait possible. Alors, aux États-Unis, c'est tout à fait possible. La loi le permet. En France, c'est plus compliqué, mais c'est une question qui se pose aussi maintenant. Et donc, ça permet justement de recréer de la collectivité. Et moi, je crois que ça va complètement avec. C'est-à-dire que si on veut rentrer un peu dans les détails de choses concrètes, cette idée, entre autres, de revenu d'existence qui est complètement révolutionnaire, et je pense qu'elle n'est absolument pas récupérée, cette idée-là, elle ne peut fonctionner que dans le cadre d'une construction collective et pas d'un point de vue général. Par exemple, quelqu'un comme Yves Cochet, par exemple, propose un revenu d'existence, moi je l'ai entendu proposer ça, sauf qu'il propose 600 euros par mois. Bon, c'est complètement ridicule. Ça, c'est pas un revenu d'existence, c'est un revenu d'inexistence. Voilà. Donc, c'est pas ça. C'est plus, je pense qu'il y a vraiment un certain nombre de procédés, finalement, de choses très concrètes qui peuvent se construire dans le cadre d'une collectivité locale et d'une relocalisation de l'activité. Et donc, qui peut être basé, par exemple, sur une monnaie locale qui permet aux gens d'avoir l'essentiel de ce dont ils ont besoin, en tout cas en termes de besoins de base, fournis par la collectivité, à savoir manger, s'habiller, habiter, etc. Et ça, c'est tout à fait possible. Il y a la coexistence de deux monnaies. Voilà. En fait, oui, il y a la coexistence de deux monnaies. Il y a une monnaie locale donc, qui est créée donc, pour la collectivité et qui fonctionne avec, en gros, les producteurs de la collectivité qui sont prêts à travailler avec cette monnaie. Il y a tout un mouvement qui se crée actuellement, en particulier qui vient d'Angleterre, d'une ville qui s'appelle Totnes en Angleterre, où est apparu ça, et qui est aussi un mouvement, d'ailleurs, qui est lié à un autre mouvement qui s'appelle la permaculture, qui est une autre manière de concevoir l'agriculture. Et donc, tout ça est très lié, quoi. C'est-à-dire que, moi, ce que je veux dire par là, c'est que récupérer des bribes du capitalisme. C'est vraiment reconstruire notre société sur une base locale, sur une base locale pertinente, je dirais, qui puisse fonctionner. C'est-à-dire, en gros, pas une ville moyenne et ses alentours agricoles, ça peut fonctionner, quoi. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile dans une ville comme Paris. Ouais. Mais ce type d'expérience-là qui se crée peu à peu, qui existe, petit à petit, à mon avis, elles vont se fédérer. Elles vont se reconnaître les unes les autres, même si elles se donnent des titres différents. Et donc, c'est peut-être là que viendra la solution.
Il y avait, pour ce que vous disiez, aux États-Unis, on avait fait venir pour une conférence des gens qui avaient créé une monnaie à Ithaca, dans l'Illinois. Vous connaissez, avec l'or. Donc, ils avaient créé une monnaie complémentaire au dollar, une ville de 50 000 habitants. C'est pas un village comme ça, etc. Tous les commerçants avaient accepté l'idée d'avoir une monnaie qui soit une sorte, qui rehausse la valeur le niveau de vie, parce que c'était une monnaie complémentaire au dollar. Donc, Les gouvernements fédéraux ne pouvaient rien dire parce qu'ils gardaient le dollar, sauf s'ils faisaient une monnaie qui peut-être leur donnait, je ne sais pas, 20, 30, 40% de pouvoir d'achat en plus, et qu'une monnaie qu'ils avaient créée fictive, mais avec émission de billets aussi. Ce n'est pas comme l'échange réciproque de services où on peut émettre des chèques ou de machin, c'est scriptural, c'est une monnaie scripturale. Si en France, vous essayez de créer une monnaie, non seulement vous passez pour des faux monnayeurs, mais la République vous envoie l'armée. Parce que là, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que c'est incroyable. 50 000 habitants. Tous les commerçants ont accepté. En disant, ah, mais c'est intéressant. Hein. Parce qu'ils avaient des problèmes. Ils avaient des étudiants de grandes écoles qui venaient à Ithaca. Et donc, le niveau de vie était très cher à cause des grandes écoles. Les habitants se sont dit, mais attends, c'est pas possible. Et donc, comment on va pouvoir... Et ça, c'est vrai que ça, c'est génial. Mais ne créez pas de faux billets en France. Faux monnayeur à la Gide, ça marche pas ici.
Ça permet de un peu de tourner la loi, quoi. Ouais. En fait, je pense aussi qu'il y a une expérience actuellement qui est à Nanterre, en fait. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Patrick Vivray, qui travaille, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et là, il habite Nanterre et il est en train, avec la municipalité, de monter une monnaie complémentaire. Donc, c'est aussi dans une ville comme ça. Ça, voilà, c'est une chose qui avance.
Ouais, Patrick Vivray qui a fait un rapport, parce qu'il est cours des comptes, Reconsidérer la richesse, qui est un ouvrage qui avait été édité dans une revue qui n'existe plus maintenant, Transversale Sciences et Culture, qui était un rapport qu'il avait fait pour le Guy Asquette à l'époque, secrétaire d'État à l'économie solidaire, qui n'existe plus d'ailleurs. Mais le Reconsidérer la richesse est très très beau parce que c'est comment modifier les critères d'évaluation de la richesse nationale, sachant que plus vous avez que même les nuisances écologiques, tout ça, sont dans la comptabilité nationale. À la rigueur, plus vous avez une marée noire, comme ça fonctionne, plus vous avez votre PIB qui gonfle. Donc il fallait trouver de nouveaux instruments plus affines pour essayer de reconsidérer justement nos critères appréciant ce que c'est que la richesse.
Il y a un très bon film qui a été réalisé par les gens de Focus 21 et qui s'appelle Le bonheur national brut et qui répond à toutes ces questions de qu'est-ce que le bonheur ?
Qu'est-ce qu'on fait, Annie ? On continue ou quelle heure il est là ? Comme vous voulez.
Au suicide de Gors et sa femme, est-ce qu'il y a eu une lettre qu'il a laissée ou enfin quelque chose ?
Bah écoutez, je ne sais pas si vous, certains ont lu les lettres à Dorine. Hein. C'est-à-dire que non, on sait même pas comment ça s'est fait. Hein. Ça m'a toujours fait penser un peu à Docteur Jivago, là où il y a Omar Sharif et Catherine Deneuve qui se donnent un dernier baiser, mais je ne pense pas que ça a dû se passer de manière aussi romancée. Et après qu'ils utilisent le pistolet tour à tour, mais Hein ? Pas Docteur Jivago ? C'est pas elle ? Mais si, je suis sûr. Ouais, non, mais ils sont dans un pieu. Enfin. Oh. Ah, peut-être, je vérifierai. Mais bon, c'est des choses très intimes, très. Il y a beaucoup de pudeur autour de ça, mais toujours est-il que bon, c'est qu'elle, elle était très malade, ils avaient vécu des décennies ensemble, et donc, lui se voyait pas vivre sans elle, il savait sa fin approcher, et donc ils ont dû, lui, là, dû faire mûrir sa décision, quoi, de se résoudre en quelque sorte à anticiper le moment où elle mourrait pour justement que. Voilà, qui se rejoignent dans un autre espace. C'était ça, quoi. Le... Ah non, parce qu'il était. Moi, je l'ai. Non, Gore, c'était. Moi, je l'ai. Bon, j'ai rencontré une fois à Paris. Il m'avait invité à déjeuner, tout ça, parce qu'il habitait dans l'Aube. On a eu plusieurs rendez-vous manqués parce qu'il nous invitait aussi dans sa maison, dans l'Aube, là, vers 3. Et on avait toujours des problèmes. Ah, mais je l'avais, enfin, je l'ai eu pas mal souvent au téléphone. Ils m'ont essayé avec un petit mot gentil. Je lui téléphonais, on parlait. J'ai fait des entretiens dans la revue Les Périphes avec lui. Et au contraire, c'était quelqu'un d'une ouverture extraordinaire. C'est-à-dire, lui, il était vraiment, il épiait, il cherchait. Ah, oh, ça bouge là. Ouh. En plus, il avait une culture de journaliste, hein, parce que journaliste, il était quand même cofondateur. Il a travaillé à l'Express. Il était cofondateur du Nouvel Obs. Donc, il avait philosophe, économiste, écrivain, un extraordinaire écrivain, journaliste aussi. Cette culture de d'épier, de prendre les données économiques, de voir ce qui se passe, qu'est-ce qui frémit dans le syndicalisme allemand, qu'est-ce qui s'est noué comme partenariat entre cette entreprise métallurgique et puis le patronat, les syndicats, qu'est-ce qui... Il était à, et il épiait tout ce qui se passait. Il épiait, je ne sais pas quoi, l'association pour le nouveau travail vers Chicago, la maison des chômeurs de Toulouse. Il était à l'affût de tout ce qui bougeait, dans le sens de ce dont il avait l'intuition, à son sens, à savoir qu'on était véritablement dans une sortie qu'on ne veut pas reconnaître, sur laquelle il y a un déni de la société salariale, mais qu'on y viendrait d'une manière ou d'une autre. Et donc, il était au contraire, alors là, plutôt fin, comme ça, très, au contraire, enthousiaste, quoi, très, voilà, c'est pas... En plus, pour quelqu'un quand même qui a, voilà, il a balayé quand même le siècle, enfin, il a connu les gens de l'école de Francfort, bon, Sartre, tout ça, je veux dire, c'est... Voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit le... Pas des rigolos, quoi, quand même, ces mecs-là. Bon, ben, merci à vous.
Merci à tous.
Voilà. Ah oui, si vous voulez découvrir la revue, pour ceux qui la connaissent pas, il y a aussi on a fait une transcription dans un article du texte du film, pour ceux qui s'intéressent. Et puis, si vous voulez vous procurer L'Appel et Démocratie, c'est un collectif qui est toujours en devenir. Et voilà,